Et M. Claude Duchesne est un professeur émérite de l'Université Paris 8. Et il est initiateur de la sociopolitique en France, en même temps que est l'un des meilleurs connaisseurs du 19e siècle. Et il a fait ses travaux sur Flaubert et Balzac, Zola ou Victor Hugo. Et tous ses travaux font autorité. Il y a tellement de choses à dire sur ses activités intellectuelles. Donc, je ne peux pas détailler toutes ses activités. Mais il n'est pas besoin de faire sa présentation parce que tout le monde le connaît. Alors,
Merci. Je vous préviens déjà que je déborderai un peu mes 30 minutes. Il ne faut pas que je parle trop vite. Je n'ai pas l'habitude de lire. Je suis obligé de lire. Parce que sans ça, il me faudrait 3 quarts d'heure. Bon, alors j'ai déjà gaspillé 1 minute. Ça débordera un tout petit peu. Bon. Je vous demande simplement de faire attention au titre de cette communication. Tout est dans le point d'interrogation. Victor Hugo, témoin de son temps, c'est une question. Ce n'est pas une affirmation. Donc, c'est ce que je voudrais essayer de démontrer et de montrer. De montrer plutôt que de démontrer. Après m'être attaqué à cette chose étrange, à cet ensemble de textes aléatoires qu'on a l'habitude de désigner ou que l'on a réuni sous le nom de choses vues. Ces choses vues m'ont toujours un peu intrigué. J'y allais comme ça, par petits morceaux, avec inquiétude, un sentiment d'insécurité permanent. C'est l'occasion d'essayer d'aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et bon, ce qui se passe là-dedans, qui n'est pas simple, puisque... voilà. Je veux dire, ça fait plus de 1000 pages quand même, bon. Et ça dure pendant 30 ans, bon. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire entrer dans Hugo et savoir où le mettre, et savoir ce que c'est. Bon, c'est à peu près le sujet de mon propos. Parmi les écrits hugoliens, chose vue occupe une place singulière. Il ne s'agit pas d'une œuvre achevée, mais de dossiers épars dont la rédaction n'est ni continu ni entièrement autographe, il dicte des choses, mêlant notes elliptiques et textes de plusieurs pages. Elle s'étend sur plus de 30 ans, essentiellement, mais pas uniquement, pendant les années qui précèdent l'exil, en gros de 44 à 51. Ça se poursuit un petit peu après, mais le gros des choses, c'est à ce moment-là. Texte à géométrie variable, comme il est dit dans sa meilleure édition, la seule véritable, à vrai dire, véritable édition, travail sérieuse, celle de Bouquin, la voici, sous la direction de Guy Rosa. Il comprend cet ensemble plusieurs éléments, plusieurs sous-ensembles, tantôt intégrés, tantôt exclus par les différents éditeurs, avant et après ceux de Bouquin d'ailleurs, ça continue, eux-mêmes souvent, ces éléments, souvent tronqués ou dénaturés par la jonction d'autres éléments ou par des épurations arbitraires. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des textes, la totalité, tous les textes rassemblés sous ce titre, je vais en expliquer de choses vues, provient de la malle au manuscrit dont on a déjà parlé, légué par Victor Hugo à la Bibliothèque nationale. Donc tout cela, ce sont des écrits posthumes, sauf quelques bribes qui avaient paru ici ou là, de toute façon. Et là commencent les paradoxes que j'évoquerai tout d'abord. J'en ai dénombré 7, il y en a sûrement d'autres. Avant d'aborder la matière de ces manuscrits et surtout d'envisager la manière de les lire, leur fonction, la place qu'elles tiennent dans l'œuvre hugolienne, et de les interpréter dans leur totalité et dans leur durée, et en les rattachant, en les intégrant, en les situant dans l'ensemble, dans la perspective du parcours hugolien l'esprit dans sa totalité. Donc, c'est un des plus connus des écrits posthumes, un des premiers édités, le troisième, dès 1887, des plus cités et des plus utilisés comme source documentaire. Je suis dans le premier paradoxe. Comme source documentaire essentiellement, pour des détails biographiques et pour les événements, surtout pour les événements qu'il évoque. Mais aussi des plus, comme on dit maintenant, des plus instrumentalisés, c'est-à-dire non pas étudiés pour lui-même, mais manipulés à des fins d'ordre idéologique plus que littéraire, mutilé, démembré, déformé, normalisé, rendu lisible, complété ou raccourci selon les partis pris, les occasions de les cadres dans lesquels on les rentre, ou les commodités éditoriales. Bref, un texte qui n'existe pas comme tel, faute de correspondre à un genre défini, et aussi d'avoir été reconnu et légitimé par son auteur, si bien qu'il constitue un volume considérable, un millier de pages dans l'édition bouquin, qui, à défaut de cohérence, a manifestement une unité d'objet, de ton et de facture, qui le fait texte précisément. Voici donc le premier paradoxe. Je vous signale qu'il y a un petit dossier, vous devez avoir eu entre les mains, puisque j'ai pas le temps de lire tout ça, donc ce petit dossier donne des échantillons de la matière de choses lues. J'ai mis des numéros à l'occasion, au cours de mon propos, je renverrai à tel ou tel numéro pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Deuxième paradoxe, le titre. Le titre est bien de Hugo, mais il est factice, quoique tissé tout au long des textes qu'il les recouvre par la récurrence des mots « chose » et « voir », et qui sont presque, comme disait, comme nous disions avec Henri Méchonic jadis, des mots « valeurs ». Le choix du syntagme « chose vue » opéré par le premier éditeur, Gustave Simon, est donc légitime et judicieux, mais en tant que tel, il n'est pas attesté dans le recueil, mais appartient, sous sa forme de titre, à un autre fond de manuscrits, en général publié sous l'intitulé « Océan », où il est associé à la nature et non, et pas du tout, à l'histoire. C'était en fait un titre possible d'une œuvre virtuelle, La mer et le vent, elle-même prélevée sur les travailleurs de la mer dont l'écriture était en cours et où, comme on sait, nature et histoire sont confrontées et à la limite confondues dans une histoire cosmique. Pour le titre, le document numéro 1 vous donne le seul endroit dans l'œuvre de Hugo où chose vue existe comme titre. Comme proposition de titre, bon, suivi d'un petit passage dont je dirai quelques mots dans un instant. Mais c'est le document numéro 1. Il ne saurait donc... ce que je veux dire, oui, tout intrus qu'il soit ici, le titre « Chose vue » invite donc à élargir le champ et la vision de l'histoire. Il ne saurait désigner seulement ce qu'il pourrait paraître annoncé, c'est-à-dire le récit, le rapport d'un témoin oculaire. Et il n'est pas sans intérêt de constater que sur le manuscrit en tête duquel il figure, il introduit une image symbolique, pacifiée, insolite, celle d'un navire marchand au lever de la lune, venant d'un lointain nord, apparition, chose presque fantasmagorique, je voudrais y voir comme une, mais c'est une idée tout à fait personnelle, comme une métaphore de l'histoire. Je n'ai pas le temps de le lire, malgré, j'adore quand même tant pis, ça fait une ligne. Nuit, levée de lune, navire de Norvège chargé de bois de pin, passant sur la lune avec ses cordages où pendent des morues sèches. Voilà, chose vue. Laissons pour le moment, troisième paradoxe, laissons pour le moment le mot « chose » à sa polysémie. Je vais y revenir, puisqu'aussi bien il s'agit là de la substance même d'un livre, du livre factice, enfin du livre qui existe sous le nom de « chose vue ». En revanche, le mot « voir », mais on en a parlé ce matin, j'ai été précédé, je vais retrouver des choses dites d'ailleurs, mérite tout de suite examen et doit donner en quelque sorte ses preuves avant lecture. Il est trop important et trop central chez Hugo pour qu'on puisse passer comme ça sur qu'est-ce que ça veut dire chose vue. Bon. Même si on s'en sert d'une manière opératoire, comme j'ai dit. Or, justement, ce mot voir, on ne peut le prendre au mot. Tout au moins dans son emploi courant immédiat dénotatif. Hugo fait un usage assez libre du terme, qui étant, dans chose vue en tout cas, s'il nommait chose vue, qui étant ce qu'il a vu de ses, ce qu'il a vu de ses propres yeux à ce qui a été vu, qui recouvre ce qu'il a cru voir et ce qu'il a vu en rêve, qui confond l'image et l'imaginé. Les visions du penseur ou du poète sont également prises en compte et il s'agit en vain souvent moins de choses vues que de choses lues ou de choses sues qui viennent ou reviennent à la mémoire ou même de choses invisibles à l'œil nu ou visibles seulement avec les yeux de l'esprit. Et l'on peut littéralement voir des mots, voir des parole. Chez Hugo aussi, l'œil écoute. Peu importe cependant, car le remarquable est ici qu'on soit dans un univers parsemé d'yeux et de regards, offrant à profusion des signes à déchiffrer, donnant à voir les marques de l'histoire, s'affichant, au sens figuré comme au propre, dans ses prétentions, ses promesses, ses grandeurs, ses petitesses, et ses dérisions, voir le document 9, par exemple, de ces affiches, justement, qui retiennent l'attention dans chose vue. Et ce qui se présente au regard n'a pas besoin d'être vu, mais plutôt d'être revu pour prendre sens et consistance, car on peut voir sans voir, et c'est là, me semble-t-il, une motivation essentielle de ces feuillets qui sont une sorte d'initiation à la vue, une éducation du regard. En ce qui concerne la distinction entre vue et revue, le nombre d'anecdotes, le nombre de textes qui consistent non pas dans le récit de ce qui a été vu, mais dans le récit de ce qui a été revu. Un des exemples, j'ai plus le numéro, mais enfin vous le trouverez rapidement là, c'est la visite aux Invalides, au tombeau de Napoléon, pour revoir l'endroit où on vient de déposer le... Et c'est là que commence la méditation, la pensée, etc. C'est pas au moment de la vue, c'est au moment de la revue. La question du témoin oculaire devient dès lors secondaire. C'est d'un autre regard qu'il s'agit pour Hugo, témoin du siècle, oui, mais du dedans surtout, et dans la mesure où le siècle le prend à témoin. Les choses vues l'ont été ou ont pu l'être, peu importe par qui, on peut du reste se les figurer. Document 6, un emploi remarquable du mot figure, Hugo voit des choses qu'il n'a pas vues. Et il ne cesse d'interpeller un destinataire éventuel, en lui disant qu'on se figure, etc. Il s'agit de l'exécution de Louis XVI, à laquelle Hugo, comme vous savez, n'a pas assisté. De toute façon, le regard de Hugo se veut le plus possible dépersonnalisé. La chose vue n'a pas besoin de dire qui la voit, passant, voyeur, voyant ou visionnaire. Il suffit qu'elle soit donnée à voir par qui la découvre et la nomme. Le journal de ce que j'apprends chaque jour, partie intégrante de choses vues, l'une de leurs modalités plus exactement, ne paraît guère du reste lui se préoccuper de voir, ni donc de choses vues, mais de, je cite, voyez le document numéro 2, deux sortes de choses, celles qui sont venues à la pensée et par inspiration, et celles qui sont venues par alluvion. Très intéressant d'ailleurs cette notion d'alluvionnement de l'esprit. Bon. L'essentiel, c'est évidemment qu'il s'agit là des accroissements de l'esprit. Ce qui fait que la pensée et regard sur les choses, d'une part, et d'autre part, l'alluvion arrive du dehors. Bon. Pour Hugo, peut-être être témoin de son siècle, c'est ce que je veux dire, c'est moins le voir du dehors que se l'incorporer, le faire sien précisément. Être témoin de son siècle quand le siècle lui appartient. Hein, c'est pas le regard objectif porté sur, c'est une fois incorporé à. Bon, à peu près la leçon, me semble-t-il, du journal de ce que j'apprends chaque jour dans ce sens-là. On ne doit donc pas assimiler chose vue à un témoignage personnel sur le temps présent. Le temps présent, comme vous savez, c'est le titre principal, le titre courant de la majeure partie des choses vues. Bien. Je reviendrai sur la composition du recueil, qui est celui, alors le temps présent, qui est celui du XIXe siècle, très historiquement et philosophiquement défini et situé. Mais plutôt à un appel au siècle à comparaître pour montrer ce qu'il est et aussi ce qu'il cache. À ce niveau, la chose vue devient objet de pensée et par un retournement paradoxal, elle peut être chose vue sans être littéralement vue. Cinquième paradoxe, ici se pose en effet la question des dates, plus exactement de la datation. Or, chose vue ne respecte pas toujours le contrat implicite qui veut que date et signature authentifient une prise de vue. Sans même parler des feuillets sans date qui s'y rencontrent, même dans les carnets, c'est-à-dire les carnets de la guerre et de la commune, la chronologie est celle de la rédaction, en gros de 1844 à 1880, mais il n'y a presque rien après 71. Mais non celle du regard, chronologie de la rédaction, mais non celle du regard. Les souvenirs, en effet, interviennent, les réminiscences ou les remémorations. Des scènes du passé sont reconstituées à partir des traces du présent ou de témoins sans visage. Certaines sont purement oniriques. Un des plus bels exemples, document numéro 6, est l'insurrection de Saint-Domingue, 1791-1793, reconstituer in presentia comme un cauchemar avec force détail le 25 novembre 1845, avec des affirmations surprenantes comme cela. Qui n'a point vu ce spectacle ne saurait en faire sans faire une idée. Ou encore, il faut avoir vu ces choses pour les peindre. Fiction du regard. La chose vue est aussi un objet fictionnel, idéologique en même temps, puisque ici, les barbares entrent dans Paris. Les écrits, quand on passe à l'exil, au temps de l'exil, les écrits de l'exil eux, privés du temps public et de ses repères, s'inscrivent dans un temps autre où l'histoire s'absente ou est tenue à distance. Alors que la plus grande partie des notations de choses vues, en dehors du temps de l'exil, accompagnait très précisément l'irruption des événements au point d'en faire une œuvre de circonstance en partie double avec la parole publique, c'est-à-dire ce qui sera recueilli en particulier dans Actes et Paroles, j'y reviendrai. Sixième paradoxe, ce double registre du privé et du public, marque du passé et du présent, explique aussi la distance étonnante que chose vue garde vis-à-vis de la littérature et particulièrement de l'œuvre même de Hugo. En gros, c'est l'époque des Misérables et rares sont les références directes à ce roman en devenir, même si tout y est étroitement rattaché, au point que, hypothèse minimaliste mais très fortement étayée, l'équipe éditoriale de bouquins n'est pas loin de considérer ces textes dont je parle comme appartenant au chantier des Misérables, au dossier des Misérables. Et il est souvent difficile, en effet, de distinguer telle page de choses vues et telles autres figurant dans le reliquat du roman. Il était question ce matin des énigmes, des Misérables, des silences des Misérables, etc. Une clé, une piste est en tout cas dans choses vues, qui est, je n'ose pas le dire parce que, vous verrez, on ne peut pas le nommer, quelque chose comme le journal de bord des Misérables, sans que les Misérables soient nommés. Mais on se rend très bien compte que là, il y a quelque chose qui coince dans l'écriture du roman et dans la réflexion de Hugo sur l'histoire et dans son rapport à son temps et dans son rôle qu'il assume de faux témoin de l'histoire. Non. Je ferme ma parenthèse. C'est le même univers, en tout cas, entre Chose Vue et Les Misérables. C'est le même univers intellectuel, ce sont les mêmes problématiques, les mêmes questions, les mêmes formes d'écriture parfois et de composition. Cependant, Chose Vue n'est pas le journal des Misérables, c'est à peine le journal d'un écrivain, comme si Hugo tenait à bien séparer les domaines. Le moi qui s'engage avec Chose Vue n'est pas exactement celui de l'écrivain, en dépit d'interférences multiples. L'œuvre se situe à un autre niveau, autonome et souverain. Elle peut tutoyer le siècle, l'interpeller, mais sans se compromettre avec lui. Chose Vue porte trop visiblement les marques du réel pour ne pas nuire à l'élaboration littéraire, d'autre part en cours. Inversement, roman et poésie engagent trop profondément l'homme pour ne pas altérer la voix de l'historien des choses. Dernier paradoxe, provisoire, par là s'explique peut-être le dernier paradoxe que j'ai noté à la suite et avec la caution de mon édition de référence. D'une part, il est indispensable d'éditer Chose Vue, conçue d'ailleurs pour l'être un jour, destinée à rejoindre en tout cas la masse de l'œuvre, et pourtant, on ne peut éditer le texte sans le trahir, puisque lui donner un statut propre, et l'isoler du champ d'écriture où il fait sens, où il trouve écho et reformulation, où il prend corps parfois, mais aussi où il se prolonge au-delà des apories du temps présent. Dès la décision de juillet 1846, que vous avez dans le document numéro 3, je crois, ce qui deviendra chose vue, la décision de 46, c'est le journal de ce que j'écris chaque jour, qui n'est pas tout à fait le projet de Chose Vue, mais qu'on amalgame à Chose Vue, le souci d'une dépersonnalisation complète. J'écarte, moi, je ne parle pas de moi, je parle de ce qui vient par alluvion du dehors. Bon, mais le pari n'est pas tenu, un an après, il dit, j'ai tout raté, j'ai tout faux, ça ne marche pas. Bon, bien. Et de là naît Chose Vue. Bien. Et vous avez l'explication de cela dans le document numéro 3. Bien. ce qui deviendra chose vue, cet exercice continu d'écriture et de notation, cette synthèse de l'homme public et de l'homme privé, ce rendez-vous des deux Victor Hugo, cela tient à l'ensemble de l'œuvre par tellement de liens et d'affinités qu'on lui enlève en l'éditant le terreau où il prend racine et l'espace où il se déploie. Et de plus, on l'ampute toujours quelque peu par ce qu'il y a de permanent, parce qu'il y a de permanents échanges entre les dossiers des œuvres parallèles et les textes retenus pour choses vues, parfaitement homologues aux copeaux ailleurs recueillis. Notre édition de référence n'échappe pas au dilemme qu'elle pose, puisqu'elle rassemble sous le titre emblématique, inévitable, chose vue, des éléments divers d'origine, carnets, dossiers, feuilles, et qui diffèrent par leurs projets, leurs dates et leurs circonstances de rédaction, puisque des contraintes éditoriales ont repoussé dans le volume Voyage les carnets de la guerre et de la commune, ce qui permet d'observer, soit dit en passant, les homologies de structure et de ton entre l'écriture de Voyage, principalement Voyage aux Pyrénées par exemple, et l'ensemble chose vue, qui ne vient donc pas tout à fait de rien, et l'on pourrait suivre sa genèse dans une histoire de l'écriture hugolienne. Parler tout uniment de choses vues est donc toujours un peu fausser les choses, précisément. Mais le titre a valeur générique, faute d'un plus topique. Hugo risque le terme biface, carnet-journal, qui mérite examen en ce qu'il associe deux modalités de notation. Mais c'est pour désigner le projet spécifique du journal de ce que j'apprends chaque jour. Premier texte de choses vues, lequel, à l'origine du moins, a son objectif propre, avec un cahier des charges précis et la consigne de n'enregistrer que les choses du dehors, je l'ai dit. L'évolution du projet, le constat en 1847 de son relatif échec, puis son abandon après 1848, après février 1848, laisse le champ libre à choses vues. Mais en fait, les feuillets de temps présent, la composante majeure de choses vues, s'accumulaient depuis plusieurs années déjà, et donc aussi ceux signalés à part, que regroupe maintenant dans cette édition le sous-ensemble fait contemporain, dont l'équipe présente la première édition séparée. Donc la deuxième composante de cette masse. Journal de ce que j'apprends chaque jour. Fait contemporain, édité à part, puis la série des Le Temps Présent, 6 séries de Le Temps Présent, à quoi s'ajoutent les carnets de la guerre et de la commune, qui se greffent sur Temps Présent pour les années 70-71, la partie 6 de Temps Présent se réduisant à quelques pages. Actes et paroles, tout ça, vous avez tout ça dans le document numéro 13. Actes et paroles prend publiquement le relais, mais aussi, on pourrait dire, de la même veine, de la même écriture, histoire d'un crime. Donc, genre à lui seul, qui a son moment historique et sa fonction, chose vue, ne peut être défini que négativement, parce qu'il n'est pas, ou plutôt, il est simultanément tout ce qu'il n'est pas. Annale, chronique, journal intime, carnet de travail, mémorandum, agenda, carnet journal, livre de notes, si bien qu'il est susceptible de plusieurs lectures simultanées, dont aucune n'est totalement exacte ni totalement erronée. Mais il semble bien aujourd'hui qu'on puisse envisager l'ensemble comme un ouvrage et le lire comme un texte, sans vouloir qu'il soit littérairement correct. Bon. Certes, le contenu en est assez difficile à analyser, car il est lié à une forme d'écriture et de composition, je risque le terme par collage, on dirait couper-coller presque, qui s'écarte de toutes les pratiques connues de l'époque, transgressives ou non, de tous les modèles de référence possibles, même du côté des excentriques, et bien sûr de tous les genres nommés ou répertoriés, sans pour autant se définir, comme si la chose allait de soi, arrivait à son heure, pour un usage strictement privé. C'est ce que je cite, c'est ce que j'ai fini par faire presque sans m'en douter. Note Hugo en juillet 47 en constatant la dérive du journal où s'annonce chose vue. L'entreprise et sa manière semblent donc naturelles, spontanées pour Hugo. Naturelles et un peu pour le lecteur aussi. Naturelles, spontanées, celui qui lit par-dessus l'épaule de Hugo, c'est pas fait pour lui. Spontanées, expérimentales sans doute pour les rapports de l'histoire et du personnel. Éphémères peut-être. Elle n'engage pas apparemment une réflexion d'ordre littéraire ou esthétique, même pas une déclaration d'intention. Elle n'était du reste liée à aucun programme, attachée à aucun projet défini. L'analyse proposée par l'équipe de bouquin, enfouie dans les notes, il fallait la chercher, est à ma connaissance la première et la seule à aborder de front la question. Je cite, le type d'objet et le destinataire sont ceux d'une chronique, mais la matière relève du journal intime. Cette contradiction dans la forme du signifié s'étend à la forme du signifiant. La structure fragmentaire et le ton chose vue, sans équivalent dans la prose. D'autre part, et la remarque est fondamentale, je continue à citer, l'écriture de chose vue n'est pas une constante de la manière hugolienne et ne se développe pas fortuitement à partir de 1845, pour tarir vers 1850. C'est le moment où Hugo entreprend d'entretenir avec son siècle une relation nouvelle. Chose vue serait donc le témoignage d'un apprentissage, l'expérience d'un autre rapport à l'histoire, à la fois immédiat et transcendant, et d'une écriture attentive aux choses humaines, dirait Balzac. Acceptées comme elles viennent, sans tri préalable ni jugement a priori. Chose vue, recueille tout ce qui échappe au roman, d'où leur consubstantialité avec les reliquats, et au discours. Tout ce qui échappe au roman et au discours, c'est encore une remarque des éditeurs. Le mot « chose » pourrait bien être justement le signe et le vecteur d'une nouvelle appréhension de l'histoire, puisqu'il peut nommer tout ce que l'histoire ignore, le non mémorable, tout ce qui n'est fait pas événement, ne s'enregistre pas comme fait, n'a pas forcément de date, et aussi tout ce qui relève du social, des choses de la vie, l'expression se trouve dans le texte. Le mot est toujours disponible pour tout et pour tous. Les idées mêmes sont, je cite, des choses pures et sereines. Et Hugo se qualifiera en 1861 de lui-même de chose publique. Je suis une chose publique. Comme il y a une âme des choses, tout ça c'est des expressions qui sont dans le texte, il y a un inconnu des choses, et aussi une évidence des choses quand les principes sont en jeu. À propos de ces principes, voici cette note, ces choses ne se mettent pas aux voix, elles sont. Voir les choses, c'est donc tout voir, même les choses de l'infini, et se donner le moyen de tout comprendre, mais à condition de voir vraiment, de savoir les distinguer dans ce qui est noirci par le temps. Le texte initial de temps présent, document numéro 4, panneau d'armoirie assez curieux, paraît bien vouloir illustrer symboliquement l'apprentissage du regard afin de débrouiller, je cite, un ensemble mêlé et obscur avec cette formule, l'attention qui se fixe est comme une lumière. C'est le déchiffrement d'une vieille tapisserie, on n'y comprend rien, c'est tout brouillé, puis peu à peu, tout d'un coup, tout cela s'éclaircit, se précise, pour découvrir l'horreur d'ailleurs. Bon. Voilà un exemple, bon, fonctionnement du regard en chose vue. Une dernière gerbe de questions, j'en suis où dans les délais, pardon.
Oui.
Dépassé ?
Oui, un petit peu.
Bon, une dernière gerbe de questions, je laisserai tomber la fin, tant pis, inévitable, inutile. Les questions sont inévitables et inutiles, mais on est toujours dans les paradoxes. Quel est le statut de ces fragments, de factures diverses, en attente de forme, de sens, d'attribution générique, de destination et de destinataire? De ces notes, de ces feuillets, fort peu littéraires en apparence, mais qui sont eux-mêmes une expérience littéraire, et qui ont une existence littéraire, c'est-à-dire philosophique, par nécessité hugolienne. Quelle place leur assigner dans l'œuvre ? Marge, parenthèse, matériaux, brouillon, esquisse, essai de plume, soit la périphérie, ou bien au centre, chambre d'écho, réserve mémorielle, foyer énergétique, noyau conflictuel riche d'amorces fictionnelles, de schémas discursifs, de virtualité conceptuelle, de ferment pour l'imagination. Quelle est, dans ces textes en émergence, la part de l'illusion, de l'auto-représentation et même du ressassement ? Et, d'un autre côté, celle de l'invention libérée, qui se joue des règles du bien-dire, ce qui n'exclut ni le souci de compréhension, ni celui de distanciation. À quelle sorte d'investigation ? À quel usage de la prose ? À quel niveau du privé et de l'intime ? À quelle situation de parole ? À quel registre de pensée correspondent-ils ? Relèvent-ils en priorité d'une attention et d'une intention critique ou satirique ? D'un besoin latent de justification ? D'une tentative d'observation pure et de regard objectif ? D'une pratique de la rêverie délibérée ou consentie ? Comment faire le départ entre le calculé et le fortuit, entre le libre exercice de l'esprit et les urgences du présent, entre un contrat de vérité et des gestes de dénégation ou de mise en scène, entre, formule hugolienne, l'obéissance au vent et aux impulsions du désir, aux émotions du vécu, et une stratégie complexe de transfert, de rappel, de montage, de brouillage des temps et des espaces, entre le parti pris d'exactitude et de précision et les effets d'écriture. Selon quels critères, enfin, s'opère la prise de notes, leur sélection, leur mise en place, plus ou moins soumise à la recherche du disparate, aux récurrences thématiques, aux contingences extérieures et même à la logique interne de l'entreprise. Et enfin, que dire des choses tues ? Question nécessaire en effet pour maintenir ouvert ce texte problématique, très caractéristique au demeurant de l'aventure des idées au XIXe siècle, aux confins de la science, de la politique, de l'éthique et de l'esthétique. Mais question un peu vaine, puisqu'elle ne saurait avoir de réponse, et puisque le lecteur, non convoqué, non prévenu, toujours quelque peu illicite, ne peut qu'accepter de jouer le jeu où l'écrivain s'absente, se distrait et se ressource. Il ne peut qu'être piégé, le lecteur, par cette parade sauvage du siècle, plus ou moins carnavalesque, dont il n'a pas la clé, où le sens postulé de l'histoire est sérieusement mis à l'épreuve. Cependant, un discours d'escorte ponctue ou plutôt rythme le texte par une série d'aphorismes dénoncés à sertoriques qui entendent maintenir le cap, la loi universelle du progrès, quelles que soient les vicissitudes du présent. Ce discours, qui devrait donner la raison des choses, en éclairer la logique immanente, alerte par sa constance et sa formulation de plus en plus incisive. Les choses seront ce que je dis qu'elles seront. En attendant, il faut les penser toutes ensemble, grandes et petites, toutes les petites choses de Cosette, comme si efforce chose vue, en examinant les traces, les vertiges, les signaux, les résistances avec et dans l'histoire. Une histoire nouvelle à construire pour l'historien dont le profil s'esquisse dans chose vue, appuyé sur une, je cite, science des faits humains, les faits humains sont des choses, doublé donc d'une anthropologie. Tout cela ne remet pas en cause le constat et la conviction du progrès, mais peut expliquer les lenteurs, les retards, les dérives, les accidents ou les reculs de l'histoire. Il y a, dans ces feuillets arrachés au portefeuille d'un écrivain, moins de naïveté et plus d'inquiétude qu'on ne pense, chose vue, dans son inachèvement même, ne cesse d'interroger leur siècle et le nôtre sur les valeurs qu'il a promues et sur son identité réelle. Je saute 3 pages.
Merci beaucoup, Monsieur Ducier, et de votre intervention. Et je voudrais récupérer le tard en raccourcissant le temps de la question, donc peut-être 5 minutes. Et je donne la parole à qui vous.
j'essaie de rendre ma question la plus courte possible. Étant donné que moi-même j'ai traduit en japonais une partie, la singularité, c'est pas possible, une partie des choses vues. À ce titre-ci, je vous pose une question. J'ai l'impression qu'en lisant les choses vues, ou il faut dire que les choses vues constituent des textes, c'est un ensemble de textes vraiment hétérogènes, ce qui fait qu'on ne peut pas en tirer l'idée mère, etc. Mais tout de même, il y a une tendance assez remarquable, c'est que c'est, vous disiez que la réalité procure des matériaux à la fiction. Mais je crois que la relation est tout à fait inversée. C'est-à-dire que c'est la fiction présente, future, qui donne vraiment matériaux à la réalité. Puisque Hugo dramatise très, très, de façon très, très bien que dans la réalité, il joue son rôle, il dramatise toujours ses actes. C'est-à-dire que si je prends un exemple de l'anecdote, l'origine de l'épisode de Fantine, Hugo a déjà comporté comme Jean Valjean dans cette anecdote. Donc c'est la fiction future qui est dans la tête de Hugo qui détermine l'acte même de Hugo.
Oui,
qu'est-ce que vous en pensez?
Très exactement, type de problème que j'ai rencontré. Je dirais deux choses. La première, c'est que, comme vous le savez, puisque vous avez mis la main dans la pâte, si j'ose dire, vous savez que le problème des échanges ou des interférences entre le reliquat des Misérables et choses vues et toujours pendant, tel point que, bon, c'est toujours des cotes mal taillées. Est-ce que ça doit rester dans son jeu? Est-ce que ça doit passer dans le dossier des Misérables? Bon. Alors, il y a effectivement, j'ai parlé d'amorce fictionnelle, c'en est plein. Mais c'est savoir où est le point de départ, bien difficile à dire, puisque l'opération chose vue, pour moi, c'est l'entreprise de fictionnalisation du réel, constante. Bon. Mais il faut quand même la caution ou l'alibi du regard. Bon. Il faut que ça soit quelque part passé devant des yeux pour que ça puisse fonctionner. Alors, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. J'ai étudié d'assez près tout ce qu'il y avait comme anecdote narrable, pour en dire, en devenir dans Chose Vue. Et il y a toujours un support, quelque part, qui a été vu par Hugo, qu'on lui a raconté ceci, cela, etc. Bon, peu importe. Mais aussitôt, et vous avez tout à fait raison, aussitôt on est sur la pente de la rêverie ou sur la pente du narratif ou sur la pente de la dramatisation. Il faudrait quasiment, mais c'est un défi à la génétique, chose vue, parce qu'il faudrait avoir la totalité des écrits qui gravitent autour pour comprendre à peu près comment fonctionne cet échange. Mais ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans Chose Vue, c'est le moment d'une sorte de retrait de Hugo de son siècle, et pas du tout de témoin de son temps. Oui, mais le temps, il l'intériorise. Bon, il est témoin du dedans, de ce qui se passe en lui à propos de son siècle, et il met en accusation le siècle d'une manière permanente. Je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que je voudrais quand même dire que tout cela lui donne le droit d'intervention et le devoir d'intervention et le droit d'imprécation. Et mon texte, ma citation terminale, qui est quelque part dans Chose Vue, dans l'édition, ça sera « Ô maître du monde, ô malfaiteur d'État, à de certains moments, vous n'avez qu'une ressource, vilaine, c'est d'assassiner. »
Certainement, il y a d'autres participantes qui désirent poser des questions, mais le temps presse, donc je suis désolé, mais on va passer au dernier intervenant.
C'était juste pour rendre un hommage au plus grand spécialiste des manuscrits de Victor Hugo qui ne sont plus de ce monde et qui sont René Journet et Guy Robert, voilà. Et qui ont donné l'édition critique de ce qui, dans Chose Vue, leur apparaissait comme la seule entité autonome qu'on puisse isoler et qui était effectivement le journal de ce que j'apprends chaque jour, qui était pour eux le seul.
Oui, mais qui est d'autre part ce qui n'est sûrement pas Chose Vue.
Non, absolument. Mais donc ils ont renoncé d'une certaine façon à publier Chose Vue, ce qui prouve à quel point ce texte est problématique. Hein. Et donc c'était évidemment le grand intérêt de la communication Claude Duché de montrer toutes les questions que soulève ce texte si abondamment cité et utilisé, et qui pourtant est un des plus difficiles à traiter. Alors, j'appelle donc l'attention sur tout de même ce fragment journal de ce que j'apprends chaque jour, dont l'édition critique et l'annotation est extrêmement riche et montre à quel point les connexions qu'il entretient avec la réalité et avec l'œuvre sont importantes, tout en appelant à une réflexion ultérieure sur le problème Chose Vue.
Merci beaucoup. Et M. Messonnier, que désire prendre la parole, donc sans doute c'est la
dernière. Très brièvement, tu as cité cette phrase « Je suis une chose publique ». Est-ce que ça te semble idiot de penser que c'est l'étymologie même du mot république?
C'est bien possible, Hugo est plein de ces jeux de mots. Je ne les ai pas tous énumérés, il y en a comme dans les documents, mais il ne cesse de jouer avec les mots, c'est-à-dire de voir les mots et de jouer avec eux. Et sa réflexion, je suis une chose publique, c'est à propos, quand il renonce à ses droits, sur les lectures qui sont organisées pour les blessés de la guerre, les victimes, payer les canons, etc., etc. Et les gens, à force de... Il fait des billets sans arrêt, puis un jour il en a marre, disant j'autorise, etc. Bon, il dit bon, alors donc petit à petit les choses s'organisent, on ne lui demande pas la permission. Et il dit, après tout je m'en moque, je suis une chose publique.
Merci beaucoup, monsieur.